BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Bienvenue à tous. Épisode, nouvel épisode à retrouver aussi en podcast replay sur notre chaîne YouTube BFM Business. Nos talents cette semaine. Alors, Alexandre Sachenko, il est avec nous ici en plateau. Il vient de nous rejoindre. Bonjour, Alexandre.
Bonjour, Guillaume.
Ravi de vous retrouver, directeur de la stratégie de Bitstack. On rejoindra aussi Thibaut Boutroux dans un instant, directeur général de Meria. On va parcourir l'ensemble des grands enjeux qui ont animé cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord, bien sûr, le potentiel technique sur les différentes cryptos. On va regarder alors que le Bitcoin est, elle refranchit péniblement les 60 000 dollars. On est quasiment à 62 000 dollars en ce moment. Gilles Santacreux est avec nous, boursicoté.com. Bonjour Gilles, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Dans un instant, je vous interrogerai sur l'Ether. Il faut bien les séparer. D'abord, Bitcoin, 62 000 dollars quasiment sur Bitcoin. Comment graphiquement vous voyez la suite, Gilles?
Alors, on est toujours dans une dynamique de fond qui reste baissière. Hein. C'est-à-dire que le fait que l'on ait cassé un petit peu durablement cette zone des 61 000, hein, qui est une zone de support qui avait été marquée justement par un plus bas le 6 février, on remonte, mais dans un mouvement qui reste encore timide. Alors, donc sur le Bitcoin, ça reste baissier. On attend un retour à minima sur la zone des 66 000 pour commencer à avoir des signaux un peu plus positifs. Par contre, ça commence à s'agiter sur d'autres crypto-monnaies. Alors, je sais qu'on va parler d'Ethereum, je vais vous en donner aussi quelques-unes d'autres. Mais sur Bitcoin, il manque encore un petit peu d'allant pour vraiment se dire que l'on sort de cette dynamique baissière que l'on a depuis maintenant quelques mois. On sort en tout cas de la zone dangereuse, hein, puisque sous 60-61 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien, on était vraiment dans une dynamique qui pouvait accélérer à la baisse. Là, on vient de dire qu'on n'est pas encore totalement sauvé, mais ça va un peu mieux.
Et sur l'Ether, on regarde 1735 dollars là en ce moment, d'un point de vue graphique. Toujours, c'est vraiment votre prisme et votre spécialité. Comment vous le sentez là, en termes de scénario pour la deuxième partie de l'année?
Alors, on est à la limite. Le signal, je dirais, est un petit peu meilleur que ce que nous avons sur Bitcoin. On est en train justement de tester le plus bas du 6 février. C'est un point bas de référence hein, que l'on a sur de nombreuses cryptos. Et là, si on parvenait à casser cette zone, à remonter au-delà des 1850 dollars pour un Ether, là aussi, les signaux seraient beaucoup plus positifs. On pourrait commencer à anticiper un mouvement haussier assez important. On a d'autres crypto-monnaies hein, qui se comportent correctement. On a notamment Solana qui donne de très bons signaux, puisque là, si on compare justement avec les points bas du 6 février, on est nettement au-dessus. On est revenu dans un range d'évolution entre 77,50 et 90 dollars. On a aussi Uniswap qui commence à envoyer des signaux assez intéressants. Et Stellar, voilà, ce sont les principales. Donc, on n'est pas encore sorti d'affaires, mais on commence à avoir des signaux positifs qui arrivent sur certaines cryptos. Et c'est à surveiller, car ça pourrait relancer un mouvement haussier de fond, si c'est confirmé, donc dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.
Gilles Santacreux, merci beaucoup. Gilles, dans l'actualité cette semaine, MiCA, ce nouveau paysage européen, on regardera le nombre de plateformes qui ont obtenu l'agrément. Et est-ce que MiCA fragilise l'Europe en poussant certains autres acteurs, du coup, à se développer ailleurs, Dubaï, par exemple? On va regarder ça de près. Le Bitcoin, est-ce qu'un seuil plancher est en vue? Est-ce que le coût de production de Bitcoin peut servir de plancher au prix? C'est une question que vous êtes quelques-uns à nous avoir envoyée. On va tenter d'y répondre. Et puis les tokens continuent d'avancer au point qu'un anti-crypto est devenu fan de tokens. Nouriel Roubini, l'économiste très anti-crypto, a annoncé le lancement de son fonds tokenisé. Figurez-vous, c'est votre machine à condenser l'essentiel, les pros des cryptos, pour aller une grosse, très grosse vingtaine de minutes. On a le temps. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Et donc, Alexandre Sachenko est avec nous pour Bitstack. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à distance avec nous depuis les bureaux de Meria. Thibaut Boutroux. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
On est le directeur général. On va regarder donc les grands enjeux qui ont animé cette nouvelle semaine. D'abord, ça y est, l'exigence d'agrément MiCA est à l'œuvre depuis quelques jours, depuis le 1er juillet. Est-ce qu'on a une idée, Alexandre, du nombre de plateformes qui l'ont obtenu cet agrément? Enfin, est-ce que pour celles qui l'ont pas obtenu, qui sont nombreuses, majoritaires, c'est un gros échec, voire un échec existentiel?
Ça dépend de la plateforme. Alors, effectivement, avant la mise en place, ou en tout cas la fin de cette période de transition donc qui a pris fin au 1er juillet, hein, donc à partir du 1er juillet, maintenant, on est rentré dans une nouvelle ère. Le marché européen est maintenant définitivement régulé. On ne peut plus opérer si on n'a pas cette licence MiCA. Avant cette date fatidique, on estimait entre 1000 et 1500 le nombre de plateformes qui étaient enregistrées ou en tout cas qui existaient dans les différents pays États membres de l'Union européenne. Et ce montant, il a diminué drastiquement, puisqu'on est plutôt autour des 200 maintenant, 200 qui ont passé ce cap. cap d'avoir cet agrément MiCA. Dans ceux qui ne l'ont pas eu, il faut vraiment distinguer, il y en a une très grande majorité, c'était des petites entreprises qui géraient quelques clients et qui parfois c'était créé il y a un certain nombre d'années, qui n'avaient pas réussi à obtenir une trajectoire de croissance et dont en fait la marche de régulation était trop haute et ils n'ont pas réussi à l'obtenir. Il y a d'autres acteurs, Binance en fait partie, où c'est pas exactement le cas. Je pense qu'on est difficilement qualifié aujourd'hui Binance de start-up avec quelques personnes dans un petit pays. C'est évidemment la première plateforme d'échange mondiale. Il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Et là, pour chaque plateforme, c'est un débat différent. Pour Binance, il se murmure soit une intervention de Christine Lagarde, soit qu'il y a une question d'honorabilité des dirigeants parce qu'il y a un passif avec la plateforme. Mais peu importe, d'une certaine façon, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé à un peu plus de 200 en Europe qui ont le droit d'opérer. En France, il y a une centaine, un peu plus, qui ont le passeport, donc qui ont notifié à l'autorité des marchés financiers qu'ils veulent opérer en France. Et parmi cette centaine, il y en a que guère 26, 27 qui sont vraiment des sociétés qui ont fait cette démarche auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc vraiment, le marché s'est largement réduit en termes de nombre d'acteurs, mais en revanche, ça s'est réduit en termes de nombre, mais ça a augmenté en termes de qualité. Donc vraiment, faire attention à bien regarder aujourd'hui, lorsque une plateforme vous démarche, lorsque vous voyez une publicité, lorsque vous voyez une plateforme en ligne ou quelqu'un vous appelle, prenez le réflexe d'aller regarder justement cette liste blanche des prestataires de l'AMF.
Thibaut, est-ce que le paysage change radicalement maintenant qu'on sait qui peut rester et qui ne peut plus rester ?
Bah oui, tout à fait, il change. Après, moi, je veux, pour compléter un peu ce qui a été dit par Alexandre, j'apporte quand même... un point qu'il va falloir regarder parce que après MiCA, il y a d'autres échéances réglementaires qui vont se présenter en France et en Europe. Et si effectivement on a certains acteurs qui sont restés sur le carreau parce que trop petits ou parce que pas en mesure de pouvoir passer ces étapes-là, on en a aussi certains qui n'ont malheureusement pas réussi à se réguler dans les temps avec une responsabilité qui est partagée à différents niveaux. Et notamment en France, on a une poignée d'acteurs aujourd'hui qui sont dans ce cas, qui n'ont pas encore obtenu la licence, la limite était là, et pour autant, ils avaient déposé un dossier dans les temps qui était complet, et ils ont souffert peut-être de certains manquements au niveau de l'instruction, peut-être d'un nombre de dossiers qui était trop important sur un délai un petit peu trop court. Donc pour ces acteurs-là qui ont joué le jeu jusqu'au bout, qui ont investi beaucoup d'efforts sur la partie réglementaire, c'est forcément une grosse claque et on le voit, j'en ai eu plusieurs encore au téléphone cette semaine qui continuent à jouer le jeu pour essayer d'organiser une transition pour leurs utilisateurs. Forcément que c'est un petit peu amer comme fin de partie.
Et est-ce qu'on a alors du coup une idée du nombre d'utilisateurs de Binance qui ont déjà quitté la plateforme ? Est-ce que là-dessus, Alexandre voulait rebondir ? Est-ce que on a des stats ou des indices en tout cas ?
On sait aujourd'hui après le nombre d'utilisateurs qu'il y avait sur Binance France. En Europe, on parle de millions et de millions. En France, les chiffres oscillent. On parle de 1 million, parfois on parle de 2 millions, mais peut-être que c'est juste les comptes ouverts et pas nécessairement les utilisateurs actifs. Mm-hmm. Donc on est dans cet ordre de grandeur-là. Et effectivement, c'est des personnes qui depuis le 1er juillet, alors avaient déjà été informées par Binance il y a maintenant une dizaine de jours, et bien que les opérations allaient cesser sur la plateforme, puisque Binance a bien dit qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir l'agrément, le dossier avait été retiré en Grèce, et donc maintenant que les services allaient être arrêtés. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce qu'une fois qu'on est utilisateur de Binance, on voit sa plateforme qui, soudainement, le 1er juillet, ne propose plus de services. Il ne faut pas paniquer non plus. C'est peut-être le sujet, justement, de qu'est-ce qu'on fait quand on est utilisateur de Binance en particulier, mais ça marche pour toutes les plateformes qui n'ont pas réussi à obtenir l'agrément, c'est de pas paniquer parce que les fraudeurs, eux, ils s'en font vraiment une joie dans cette période de transition d'appeler des particuliers pour leur dire voilà, votre plateforme n'a pas été agréée, donc veuillez transférer vos cryptos à tel endroit. Donc faites attention si on vous appelle, redoublez de vigilance, ne pas paniquer. Les services qui ont été restreints très généralement, c'est l'achat, la vente, le staking, le lending, etc., mais pas les retraits. Vous pouvez continuer de retirer, donc pas de panique à avoir. Et ensuite, le même réflexe que tout à l'heure, que ce soit Meria pour Thibaut, Bitstack pour moi, d'aller regarder cette liste des prestataires agréés et d'effectuer une transition de ces actifs. Je me permets juste un commentaire supplémentaire par rapport à ce que disait Thibaut sur la régulation et aussi ce qui arrive dans le futur. C'est que je pense que l'Europe aussi doit en tirer un certain nombre d'enseignements. Aujourd'hui, effectivement, maintenant qu'on y est, il faut faire avec. Le marché est donc plus mature, plus sécurisé. Pour le consommateur, c'est globalement une bonne nouvelle. Il y a moins d'arnaques, moins de plateformes moins sécurisées, etc. En revanche, d'un point de vue du timing, de l'innovation et de l'entrepreneuriat en France, il faut faire attention à ne pas répéter et répéter ces erreurs où il y a une absence de proportionnalité dans la réglementation, où on ne permet pas à un certain nombre d'acteurs d'émerger alors qu'ils ont des propositions de valeur innovantes. Donc il faudra trouver le bon équilibre. On parle déjà de MiCA 2 alors que MiCA 1 n'a pas été évalué. Donc il faut faire attention aussi dans la façon dont progresse la réglementation en Europe pour toujours trouver cet arbitrage entre protéger le consommateur et protéger le tissu productif.
Thibault, est-ce que MiCA fragilise l'Europe en poussant tous ces acteurs qui n'ont pas obtenu l'agrément à se développer ailleurs? Est-ce que Dubaï en profite là, par exemple?
Ça fait une bonne transition. Alors, pour les acteurs qui sont MiCA, je suis pas sûr que Dubaï profite de quoi que ce soit, parce que il faut le rappeler, que vous soyez basé à Dubaï, au Brésil, au Japon, ou n'importe où, si vous voulez adresser des résidents européens sur des services que sont la conservation, l'achat, etc., vous devez être conforme aux règles européennes et donc être MiCA. Donc, globalement, partir à Dubaï solutionne pas vraiment la question à ce niveau-là. En revanche, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là où la question se pose, on a des autres échéances réglementaires qui arrivent et il existe encore aujourd'hui. MiCA n'apporte pas des clarifications sur l'ensemble des services de l'industrie. Et on a notamment, par exemple, la DeFi, où aujourd'hui on a encore des flous réglementaires qui, a priori, va faire partie des sujets traités dans les prochaines étapes de MiCA. Et donc là, effectivement, on a des entreprises qui se posent la question et qui, en l'absence de clarification réglementaire, vont quitter le territoire ou vont se dire, même en anticipation, moi, si mon terrain de jeu il est un peu plus large, pourquoi je m'embêterais forcément à rester dans un territoire où on va me mettre des bâtons dans les roues, alors qu'ailleurs je peux le faire correctement. Donc là, effectivement, on a des entreprises françaises, européennes qui quittent le territoire, qui le font déjà depuis un certain temps. Et donc là, c'est après à savoir, d'un point de vue politique, c'est quoi la partie qu'on veut jouer en Europe, à quel point on veut garder de la souveraineté, à quel point on veut garder les acteurs sur le territoire. On le voit d'ailleurs, hein, même sur la partie centralisée, où aujourd'hui les très gros acteurs sont quand même majoritairement des acteurs étrangers. Est-ce qu'on veut que sur ce qui reste de l'industrie, on ait aussi une majorité d'acteurs étrangers ou pas? Ça, c'est une question qui est davantage politique que crypto, parce que les talents, on les a sur le territoire. Donc, à nous de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'en faire.
Oui. Et alors, certains, au contraire, choisissent de ne surtout pas courir après l'agrément MiCA. C'est le cas de Tether. Toujours pas de demande, donc c'est fini. Pourquoi? Pourquoi Tether choisit de tourner le dos à MiCA, Alexandre?
C'est une stratégie assumée de leur part. Je pense qu'ils ne, justement, on en parlait juste avant avec Thibaut, ils courent pas forcément le même lapin. Je pense que Tether, donc, qui est la principale plateforme émettrice de stablecoin dans le monde, avec notamment l'USDT, dont le concurrent principal, c'est USDC. Il y a eu une annonce, il y a quelques jours, du lancement d'un consortium géant au niveau mondial pour faire OpenUSD. Donc, la concurrence sur les stablecoins, en particulier dollars, devient quand même assez importante. Et Tether dit, moi, je fais pas mal d'argent avec peu de gens, avec des réserves qui me rapportent de l'argent, parce que mes marchés cibles, en fait, c'est pas l'Europe. Tout simplement, mes marchés cibles, c'est le dollar sur les marchés émergents, c'est la tokenisation, c'est la DeFi. Je n'ai pas besoin de l'Europe. D'autant plus que, et c'est ce que disait le patron de Tether il y a maintenant un peu plus d'un an de mémoire, c'est que les contraintes réglementaires qui sont imposées aux réserves de stablecoin en Europe, selon lui, sont dangereuses. Pourquoi? Parce que notamment, il y a des exigences en termes de liquidité sur des dépôts bancaires qui ne sont pas assurés. Et donc, ce que disait le patron de Tether, donc Paolo Arduano, c'est que en faisant ça, on réintroduit un risque bancaire dans un produit qui était censé s'en émanciper. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait eu la problématique autour de la Silicon Valley Bank et de Circle, on avait bien vu que c'était pas qu'un risque théorique. Si les réserves de Circle étaient à Silicon Valley Bank et que la Silicon Valley Bank fait faillite, et ben d'un seul coup, on a un effet de cascade sur le stablecoin de Circle. Ouais. À l'époque, ça avait créé un petit DPEG qui avait quand même fait sursauter ou en tout cas lever les sourcils certaines personnes. Donc Tether dit, numéro 1, c'est pas mon marché, donc finalement, pourquoi s'embêter à mettre autant d'argent là-dessus? Et numéro 2, c'est une régulation qui n'est pas adaptée parce qu'elle est dangereuse, elle réintroduit un certain nombre de risques. Donc c'est assumé effectivement de leur part de ne pas vouloir cibler le marché européen et donc de ne pas vouloir se conformer, et c'est pas les seuls évidemment.
Oui, ils sont malins Tether, Thibault, là, quand on regarde cette stratégie, ne pas déposer de demande de MiCA, finalement Tether a raison de choisir l'originalité. Alors c'est pas des artistes, on va pas le dire comme ça, mais voilà, suivre leur trace, leur route, et surtout ne pas succomber à cette mode MiCA.
Mais est-ce qu'ils ont raison, ça? Du coup, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aussi d'avoir en parallèle deux acteurs qui se développent avec une approche tout à fait différente. Et donc, ça permet aussi à l'industrie de se nourrir un petit peu de ces deux chemins et de prendre peut-être sur le long terme ce qu'il y a de mieux chez l'un et chez l'autre. Mais c'est aussi une approche culturelle qui est tout à fait différente. Hein. Tether a une approche qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup plus proche du marché et qui laisse un peu plus les utilisateurs dicter qu'est-ce qu'ils ont envie de faire du produit et s'adapter en conséquence, là où là où Circle joue plutôt une adoption par le haut. Donc, en tout cas, je pense que c'est bénéfique à long terme pour l'industrie d'avoir ces deux types d'acteurs qui évoluent en parallèle.
On va parler Bitcoin, hein, je vous rassure Alexandre, dans un instant, mais un dernier mot des stablecoins quand même. L'euro n'est pas assez représenté, on le sait, dans l'univers des stablecoins, mais malgré tout, Crédit Agricole se lance et annonce le lancement du stablecoin en euro, EURXT, c'est ça ? Ils vont le dire comme ça, Alexandre ? EURXT.
Il faudra leur demander comment on prononce exactement, mais effectivement, EURXT, après...
Un stablecoin euro de plus qui va diluer encore un peu plus, on va dire, la visibilité, ou au contraire, on se dit, ça peut être une arme, un truc différenciant pour faire progresser la force, la place en tout cas de l'euro dans cet univers.
Je pense que c'est un peu des deux parce que effectivement le marché actuel n'est pas neutre. Quand on parle des stablecoins euro, on parle d'une goutte d'eau dans un océan. Il faut rappeler ici le contexte macro. Lancer un stablecoin euro, c'est entre guillemets s'opposer quasiment frontalement au projet de l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne, qui au sein de MiCA a mis des dispositions pour dire voilà, si votre stablecoin devient significatif, eh bien la BCE pourra avoir son mot à dire sur le développement de ce stablecoin. On a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette rumeur sur le fait que Binance n'aurait pas eu son dossier en Grèce, en particulier parce que Christine Lagarde serait intervenue conditionnelle.
Grosse rumeur, Alexandre. Vous
grosse
aimez
rumeur,
bien la répéter,
révélée bon, par, des, ouais. par des journalistes de renom et réputés.
Mais vous les aimez, vous aimez bien. Voilà, c'est une rumeur que vous diffusez
non,
facilement.
Pourquoi je le mets en avant, je ne sais pas si c'est vrai.
Voilà.
Après, il y en a quand même.
Insisté, Christine Lagarde.
Dans l'idée, il s'agit de Reuters, hein, je n'appelle pas n'importe qui non plus. Ouais. Pourquoi je le mets là ? Parce que malheureusement, c'est crédible. C'est-à-dire que. Elle serait intervenue pour limiter la liquidité sur les stablecoins dans un terrain de jeu qui est l'Europe, dans lequel elle veut diffuser l'euro numérique. Et ça, bon, on ne va pas refaire l'actualité, mais le 23 juin a été voté, etc., etc., le fait que l'euro numérique allait poursuivre en Europe. Donc, est-ce que ça va fragmenter ? C'est fort possible, parce que entre EURCV de Société Générale, qui a été lancé il y a un certain temps, EURXT, maintenant de KCIS, il y a un consortium qui valise en Europe, qui veut lancer la même chose. Tout le monde veut sa part du marché, ce qui, d'un côté, est un bon signal, est quasiment aligné avec un consensus sur le fait qu'il faut aller faire du stablecoin. Mais comment le faire dans un environnement réglementaire qui lui est défavorable, pour utiliser un euphémisme, et le faire quand, en plus, ce sont les stablecoins dollars qui ont déjà pris la place. Donc, est-ce qu'il y a la place pour tout le monde ? Rien n'est moins sûr.
Le cours du Bitcoin, alors on y vient. Le cours du Bitcoin remonte un peu là au-delà des 60 000, mais il est passé cette semaine à 58 000 sur des plus bas depuis septembre 2024. Est-ce qu'on peut, Thibaut, se dire que cette baisse, cette faiblesse quand même, qui commence à durer là, du Bitcoin, est liée aux absences d'avancées aux États-Unis quant au Clarity Act ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça contribue. Il n'y a pas une raison précise qui justifie la baisse sur la longueur. C'est plutôt une multitude de facteurs qui vont tirer un petit peu le marché vers le bas. Et en face de ça aussi, un manque peut-être de catalyseurs haussiers pour répondre en fait à tous ces facteurs-là. Pour ce qui est du Clarity Act, effectivement. On peine un petit peu à avoir de la visibilité et ça contribue à entretenir en fait un espèce de flou ou en tout cas un manque de visibilité dont certains acteurs, notamment institutionnels, auraient besoin pour pouvoir se positionner. Donc le Clarity Act, on le rappelle, c'est ce grand règlement américain qui va amener un certain nombre de clarifications, comme son nom l'indique, sur la manière dont les États-Unis vont aborder le marché crypto, notamment sur le rôle de la SEC et de la CFTC et sur un certain nombre d'autres points. Donc c'est certain que plus vite on va arriver à une clarification, plus vite les acteurs vont pouvoir se développer dans un cadre précis et donc plus vite ça va être favorable à l'industrie et ça va permettre au marché de repartir sur des bases haussières. C'est un espèce de cercle vicieux puisque on n'a pas cette visibilité donc c'est difficile pour le marché de reprendre et le marché a du mal à reprendre parce qu'il n'a pas cette visibilité. Donc on a quelque chose qu'on a un petit peu du mal à enrayer. Mais voilà, on commence à avoir un peu plus de visibilité sur le calendrier politique puisque ils ont dit qu'à partir de mi-juillet, le sujet pourrait être traité. Par contre, est-ce que ça va être quelques jours, quelques semaines, quelques mois après mi-juillet ? On le sait pas et l'agenda politique peut encore évoluer. Mais c'est clair que en début d'année, on avait espérance à ce que le Clarity Act soit plié avant l'été. On se rend compte que finalement, ça prend un petit peu plus de temps, comme souvent en politique, et donc il faudra patienter encore un petit peu.
Oui, quand même, nos auditeurs nous demandent quelles sont les raisons fondamentales de la baisse du Bitcoin. Si on le savait, effectivement, alors on essaie de trouver des pistes, il y a pourquoi pas le Clarity Act. Et puis alors, un auditeur qui nous a demandé cette semaine, il s'appelle Bastien, si le coût de production de Bitcoin peut servir de plancher au prix du Bitcoin, Alexandre.
Alors la réponse immédiate et simple, c'est non. Déjà parce que c'est déjà arrivé que le prix du Bitcoin descende en dessous de ce qu'on appelle le prix de production théorique, même si c'est un concept qu'il faudrait lui-même débunker parce que chaque mineur a son propre coût de production, etc. Donc il n'y en a pas vraiment, on peut l'évaluer. Mais il y a une raison, j'allais dire, plus fondamentale, c'est que les mineurs qui produisent du Bitcoin, donc qui sont répartis partout sur la planète avec chacun leur propre coût de production, ils ont simplement un coût de production du Bitcoin marginal. C'est le prochain Bitcoin qu'ils produisent. Il y a une vraie différence entre trois concepts très différents qui sont souvent... qui sont généralement à l'origine d'une confusion chez beaucoup de gens, qui sont le coût, le prix et la valeur. La valeur, elle est subjective. Moi, je peux donner de la valeur à quelque chose et vous non. C'est toujours l'exemple du verre d'eau dans le désert et le verre d'eau lorsque l'on vient de boire un litre d'eau, c'est pas exactement. Alors que l'objet est le même, la valeur a changé. Le coût, c'est effectivement ce qu'on a payé pour le produire. Et là, pour le Bitcoin, bah, c'est de l'électricité, c'est des gens, c'est des personnes qui travaillent. Et le prix, ça, c'est le marché. Et le marché, ils s'en fichent du coup. Si le prix baisse, c'est peut-être parce qu'il y a moins de gens qui veulent acheter, plus de gens qui veulent vendre, soit pour des événements, on l'a dit, macro. Ça peut être les taux qui augmentent, les taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Ça peut être une nouvelle qui tombe sur le marché de l'emploi. Ça peut être le capital qui fait une rotation vers autre chose. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui donne plus de rendement en ce moment, qui peut tout ça amener à une pression baissière. Et en face, le coût, bah, les mineurs, ils ont toujours un coût. La seule conséquence que ça a à avoir, et ça a été prévu, et c'est la beauté de Bitcoin, c'est qu'il y a un algorithme qui automatiquement va ajuster la difficulté du minage. Donc, s'il y a une conséquence à la baisse du prix, c'est que les mineurs qui ne deviennent pas rentables, eh bien, ils serrent les dents. Et s'ils serrent les dents trop longtemps, qu'ils en deviennent à un point où ils font faillite, eh bien, ils font faillite et le réseau s'ajuste et continue de produire des blocs toutes les 10 minutes. Donc, non, ce n'est pas un plancher.
Des petits investisseurs peut-être frustrés de ne pas voir le Bitcoin rebondir plus rapidement. Est-ce qu'ils sont en train de devenir, Thibaut et Meria, vous les suivez, hein, ils viennent aussi sur votre plateforme, les petits investisseurs, est-ce qu'ils sont en train de devenir une espèce en voie de disparition, en tout cas sur le Bitcoin?
Bah, j'ai vu passer la news, donc c'est une société d'analyse on-chain qui a partagé un rapport sur ça, qui a été largement diffusé dans les médias, où ils montraient que, bah, historiquement, s'ils prenaient le batch des petits détenteurs on-chain, il y avait moins de dépôts sur les plateformes et notamment sur Binance qu'à l'accoutumée, et notamment beaucoup moins que dans les dernières phases de cycle. Moi, ça m'avait un peu interpellé, pardon, parce que j'avais pas ce même constat sur Meria, et je me suis amusé à chercher, et c'est intéressant parce que c'est un indicateur qu'on peut regarder, mais ça nous montre aussi que quand on prend un indicateur et que on le regarde seul et isolé, ça peut donner une lecture qui est en fait pas tout à fait globale du marché, parce que on parle beaucoup d'institutionnalisation, etc. Donc c'est vrai que si on regarde juste cet indicateur, on peut très facilement se dire bon bah effectivement il y a moins de particuliers, il y a plus d'institutions, donc en fait les petits porteurs sont en train de se détourner et ça paraît assez logique. Par contre en fait si on regarde, il y a d'autres sociétés d'analyse on-chain qui ont partagé des métriques sur la même durée et qui montrent que il y a jamais autant de microtransactions chez les petits porteurs. Ça veut dire que la conclusion de ça, c'est que les petits porteurs n'ont jamais été autant actifs. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'un côté, ils n'ont jamais été autant actifs et de l'autre côté, ils sont en train de se désintéresser? C'est un peu contradictoire. Donc, ça nous montre que les indicateurs peuvent être intéressants dans une lecture, mais il ne faut pas en garder un, sinon on peut avoir une approche qui est isolée. Donc, je ne suis pas sûr que les petits acteurs sont en train de se désintéresser. Ce qui est certain, c'est que ils prennent moins de place parce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui viennent dans la partie. Les cycles sont différents, le marché se comporte d'une manière différente, mais je pense qu'il faudra aussi compter sur eux.
Alexandre, oui, les petits particuliers face au Bitcoin, est-ce qu'ils ont le même rapport maintenant qu'il y a 10 ans quand ils spéculaient beaucoup à la hausse?
Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que je pense qu'il y a une affaire de typologie de personnes. Ça, on le voit dans les différents sondages qui sont faits en France, à l'étranger, sur les porteurs de crypto. Aujourd'hui, cette typologie, elle est démentie par les sondages. Quand on regarde combien vous avez en crypto, par exemple, dans votre portefeuille, ça reste très majoritairement, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, de mémoire, l'ordre de grandeur, c'est 80%. 80% des gens, ils ont moins de 5000 euros en crypto. Donc, on parle pas de personnes qui sont multimillionnaires, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, si on regarde cet indicateur, je suis assez aligné avec Thibaut, en fait, on regarde pas au bon endroit. La plupart des gens qui sont petits porteurs ne font pas nécessairement l'effort d'aller jusqu'à être on-chain. Donc, c'est d'ailleurs une critique qu'on émet souvent vers Bitcoin ou les cryptos. Quand on regarde on-chain, X% des adresses possèdent beaucoup, donc c'est très concentré, mais pas du tout. Par exemple, les assets ou management qui sont chez le ETF BlackRock iBit, c'est pas BlackRock qui les possède, c'est des institutionnels pour le compte de particuliers. Donc le détenteur final, ça reste potentiellement un petit porteur qui a mis dans son compte-retraite. C'est juste que sur la chaîne, on verra les adresses de BlackRock et on dira oulala, c'est centralisé. Donc faut faire attention effectivement avec ça. Je pense que on le constate nous aussi évidemment chez Bitstack, parce que notre proposition de valeur, c'est l'arrondi, l'épargne récurrente, etc. Non, on continue d'avoir énormément de petits porteurs qui se constituent une discipline d'épargne et on le voit dans la population générale, ils sont toujours là.
Oui, mais est-ce que sur les plateformes crypto, on voit aussi alors une concurrence en tout cas la montée en puissance d'autres façons d'investir via les cryptos que dans ces actifs comme le Bitcoin. Par exemple, la tokenisation, l'adoption des actifs tokenisés, apparemment, on a des stats là, explose sur les plateformes crypto, Alexandre.
Ouais, c'est un bon relais de croissance pour un certain nombre de plateformes crypto parce ouais. qu'on l'a dit maintenant depuis plusieurs mois, voire une année, le marché crypto, il a plutôt été faible. Le capital, on l'a dit, fait une rotation vers des actifs qui ont plus de rendement. Et donc, il y a un certain nombre de plateformes crypto qui, dans ce marché baissier ou en tout cas morose, font une rotation, eux aussi, en termes d'offres produits. Et on voit notamment, alors j'ai pris les chiffres, on est quasiment à 350 milliards de volume sur les perpétuels real world assets sur juste la période février-mai 2026, donc c'est autant que l'an dernier. Donc on a une croissance très importante sur ces fameux donc actifs tokenisés du monde réel. Et ça a été notamment nourri par des événements, on va dire, très ponctuels. Ça a été les pré-IPO. On a entendu parler de SpaceX. Enfin, on parle aussi des boîtes d'intelligence artificielle. Donc ça, on voyait que quand on tradait en amont, ça venait servir ce business model qui est un relais de croissance pour ces entreprises.
Et même un anti-crypto notoire se met au token. Alors ça vous passionne, Alexandre. Ça vous fascine. Ça vous réjouit, je pense. L'économiste Nouriel Roubini, anti-crypto notoire, a annoncé le lancement de son fonds tokenisé, figurez-vous.
Oui, alors, passionne, je ne sais pas si c'est le mot, mais je trouve ça assez cocasse parce qu'effectivement ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans l'écosystème, donc on a vu des personnes dire voilà, Bitcoin c'est nul, les tokens c'est nul, ça marchera jamais, la crypto aussi. Et donc Nouriel Roubini, c'est assez cocasse puisque là on avait une émission juste avant aux rencontres économiques d'Aix dont j'avais eu l'occasion de débattre avec lui il y a 7 ans maintenant, où il disait à peu près la même chose. Et donc 7 ans plus tard, eh bien il rejoint la cohorte des gens qui disent que c'est nul mais qui l'utilisent quand même parce que finalement c'est pas si nul que ça. Et donc ça remplit ce que moi j'estime être ce qui va nous arriver à tous d'ici une dizaine, quinzaine d'années, c'est que en fait, quand factuellement on regarde à minima la technologie, puisque je ne pense pas qu'il a changé d'avis par exemple sur Bitcoin comme réserve de valeur, etc. Mmh. Mais sur la technologie, entre un fonds tokenisé disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 partout sur la planète, liquide, transférable, divisible, etc. et de la finance traditionnelle fermée à 17h et les week-ends pas divisible, pas transférable, etc. En fait, dans 10-15 ans, on sera tous allés vers là-bas et puis on rigolera du fait que certains aient été sceptiques à ce moment-là. Donc voilà, c'est juste cocasse de voir cette évolution.
C'est un peu comme la clim.
Peut-être. Non, oh là là, on lance un gros débat là. Mais peut-être effectivement que on aura ce côté ah mais en fait c'était évident et on l'avait pas vu et bon. Je pense que les marchés financiers vont évoluer vers ça.
Alors on voit Nouriel Roubini qui se convertit au token au point de lancer son fonds tokenisé, tout le monde lance son stablecoin, sa blockchain même. Robinhood lance sa première blockchain publique en l'occurrence, intéressant, une entreprise privée qui lance une blockchain publique. Alors c'est quoi Thibaut une blockchain publique et quel intérêt pour Robinhood?
Ouais, bah alors si on le fait très simplement, une blockchain publique, c'est une blockchain qui est ouverte, c'est-à-dire que plusieurs acteurs peuvent participer librement, ils peuvent pas limiter le nombre d'acteurs qui viennent de participer, et on injecte aussi cette notion de transparence qui est hyper importante, qui va pas forcément exister sur une blockchain privée, ou en tout cas on va pouvoir l'encadrer. Donc c'est effectivement un nouveau pas qui accompagne un petit peu ces changements de mentalité où les premières expérimentations qu'on a eues de la blockchain par des acteurs de cette taille, historiquement, ils étaient plutôt sur ce qu'on appelait des blockchains privées, donc vraiment très fermées, où ils allaient piocher qu'une partie de la technologie, et en fait c'était beaucoup plus du marketing que des vrais usages. Et on en vient petit à petit à ce que disait Alexandre, c'est des gens qui en fait pendant longtemps disaient que c'était pas bien et qui continuent à dire que c'est plus ou moins pas bien, mais qui l'utilisent finalement parce que bah, par défaut la technologie apporte un certain nombre de propriétés et d'avantages qui serait dommage de laisser de côté. Alors Robinhood a jamais été fermement opposé aux cryptos parce qu'ils ont un ADN tech qui est beaucoup plus ancré, mais c'est pas les seuls à avoir pris cette direction. On a d'autres, il y a Citigroup qui est aussi dans cette direction, il y a JP Morgan qui est un petit peu dans cette direction aussi, donc c'est intéressant de voir ces changements de mentalité, et surtout plus on a d'acteurs comme ça qui passent le pas, bah plus ça force aussi les autres à revoir un petit peu leur feuille de route et à changer les mentalités. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Merci à notre team, les pros des cryptos. Thibaut Boutroux, directeur général de Meria, Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie de Bitstack, étaient nos pros des cryptos cette semaine. Bon week-end, messieurs. À retrouver cet épisode, bien sûr, en podcast replay sur la chaîne YouTube BFM Business. Dans un instant, c'est l'ouverture de... Non, pas l'ouverture de Wall Street, les marchés américains sont fermés, mais l'ouverture de BFM Bourse quand même, parce que le CAC, lui, est en hausse de 0,3%. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.